Les prophètes guerriers dans les Cévennes. 1702 est en effet un tournant pour la guerre des Cévennes qui va prendre un nouvel aspect avec l'arrivée, le retour en France plus exactement, d'un jeune garçon boulanger qui se nomme Jean Cavalier, qui est originaire d'Anduze et qui rentre du refuge pour essayer de sauver ses parents qui sont emprisonnés. Les parents de Cavalier, en effet, avaient abjuré, comme beaucoup, puis ils s'étaient repris. Ils étaient revenus à Dieu, et pour cette raison, ils avaient été emprisonnés. Donc, Cavalier apprend que ses parents sont en prison, et il décide de revenir pour tenter de les libérer. Quand il arrive à Anduze, il a la douloureuse surprise de voir les têtes de Gédéon Laporte et de ses camarades qui sont donc suspendues sur le pont d'Anduze. Le sang de Cavalier ne fait qu'un tour et il décide, avec 18 de ses camarades, de prendre les armes pour venger ceux qui ont été ainsi mis à mort de cette manière aussi barbare. Il décroche les têtes de Laporte et de ses amis, il va les enterrer, et puis ensuite, son premier devoir, c'est de s'emparer d'armes. Pour ça, c'est très facile, il suffit d'aller chez les prêtres sont à peu près tous armés. Et c'est ainsi qu'après avoir dévalisé un certain nombre de presbytères, ces gens-là s'arment. La riposte royale ne se fait pas attendre, et quelques jours après, la petite troupe est cernée par les dragons du roi. Cavalier attend l'ennemi, un genou en terre, le fusil pointé sur l'ennemi, en chantant des psaumes. Et chose incroyable, n'est-ce pas, les 18 hommes de Cavalier mettent en déroute la garnison qui les avait attaqués. Petit à petit, Cavalier va devenir le grand chef, le grand stratège de la révolte des Cévennes, et il tiendra tête, à 20 000 hommes d'élite. C'est absolument incroyable. Pour l'heure, on n'en est pas encore là. Il s'agit toujours de s'armer. Et le 16 et 17 septembre, Cavalier et sa petite troupe brûlent une église, l'église de Saint-Paul de Syste, pour s'emparer d'armes. Saint-Paul de Syste est le seul endroit des Cévennes où existe encore un temple qui n'a pas été détruit. Et peu avant sa mort, Gédéon Laporte avait prêché dans ce temple, ce qui fait que, en brûlant son église et son presbytère, Cavalier a l'impression d'être fidèle à son serment, qui était de venger justement Gédéon Laporte et ceux qui avaient été mis à mort avec lui. C'est alors que le capitaine Poul se rend compte que les choses deviennent sérieuses et qu'il s'agit d'intervenir. Et c'est alors que le 21 septembre va avoir lieu le premier engagement des troupes de Cavalier avec Poul. C'est un succès pour Cavalier. Et ce dernier, le 21 septembre, toujours, arrive à Saint-Privat, il brûle l'église et il pille un château. Et c'est au retour de Saint-Privat que la troupe de Cavalier se perd dans la forêt et que intervient cet épisode que nous avons évoqué ensemble la dernière fois, à savoir une lumière miraculeuse va guider cette troupe jusqu'au lieu où elle devait se rendre. Quelques jours plus tard, malgré les tentatives de Poul de les arrêter, ils mettent le feu à l'église de Molaison et continuent à piller des châteaux. Le 29 septembre, ils vont décider de tendre une embuscade à Poul. L'embuscade est mise de main de maître, n'est-ce pas ? Ce Cavalier fait déjà preuve de ses grands talents de stratège. Malheureusement, un incident imprévu vient contrarier les plans, à savoir que les soldats de Poul se sont emparés d'une jeune fille protestante qu'ils se disposent à violer. C'est un dilemme pour Cavalier et ses hommes. S'ils vont au secours de la jeune fille, ils se dévoilent et par conséquent leur embuscade est par terre. S'il décide de continuer l'embuscade, la jeune fille va subir un mauvais sort. Finalement, il décide d'aller au secours de la jeune fille et puis de louper leur embuscade, quoi. Donc, il décroche après avoir délivré cette fille et continue le pillage des églises pour se procurer des armes dont les curés sont pourvus. En même temps, les expéditions de cavaliers ont pour but aussi de régler les comptes avec les apostats, les persécuteurs, les traîtres et les spoliateurs. Il est certain que là, on ne fait pas de quartier. C'est la guerre et à la guerre comme à la guerre. C'est alors qu'intervient un second personnage qui va être aussi le grand leader le militaire, le grand chef militaire avec cavalier du mouvement Cévenol, c'est pas du mouvement Camisard, qui se nomme Pierre Laporte, qui va prendre le nom de Roland. Roland, du nom de la pierre, qui se détache de la montagne sans secours d'aucune main, qui vient frapper la grande statue qu'avait vue Nebuchadnezzar dans son règne, et qui roule, donc roulant. Roland se considère comme une pierre, une simple pierre qui se détache et qui va venir frapper les orteils de la grande statue. Pierre Laporte est un peigneur de laine, il est castreur de cochons et de moutons, et on le dit neveu de Gédéon Laporte, en fait, ils n'ont aucun lien de parenté. Mais Roland laissera accréditer cette légende pour montrer qu'il y a une espèce de continuité. Pierre Laporte, Roland si vous préférez, est originaire du Mas Soubéran, qui est aujourd'hui le musée du désert, où donc sont rassemblés les souvenirs des camisards à Mailly. Avant d'entreprendre des opérations militaires, Pierre Laporte va commencer une carrière de prédicateur. Le 20 et 21 octobre de l'année 1702 a lieu une assemblée à Mazarone, où prêche Salomon Couderc, qui est un des grands prédicateurs du mouvement Camisard, et Pierre Laporte assiste à cette sorte de retraite spirituelle. Et le dimanche 21, en plein culte, une révélation est donnée à Abraham Mazel. Abraham Mazel, qui est un prophète reconnu comme tel, et qui annonce qu'un malheur les attend. Et chose étonnante, la prophétie de Mazel n'est pas prise au sérieux. Et on continue comme si de rien n'était, au lieu de se disperser. Grande faute, en effet, Poul a tendu une embuscade. Et la réunion est prise dans cette embuscade, dans une sorte de tenaille. Un certain nombre de participants sont tués, d'autres sont capturés, d'autres parviennent à s'enfuir. Le 28 octobre, les révoltés continuent leurs expéditions et de partout, devant l'audace des camisards, la révolte s'étend. C'est là que les camisards prennent le nom d'enfants de Dieu, le camp des enfants de Dieu. Le 15 novembre 1702, Cavalier prêche, parce qu'il est aussi prédicateur, ce sont des guerriers et des prophètes, nous l'avons dit tout à l'heure, et des prédicateurs, il prêche dans la ville d'Aigues-Vives devant une troupe de 200 hommes qui représentent l'essentiel de ses forces. Et après ce culte où il a exhorté son monde au courage et à la consécration à Dieu, il divise ses forces de 200 hommes en trois groupes qui vont être dirigés l'une par Roland, la deuxième par Salomon Couderc et la troisième par lui-même Cavalier. Avant d'entreprendre cette grande expédition à laquelle il rêve, il envoie une lettre à Baville, à l'intendant du Languedoc, donc le grand seigneur, le grand personnage, lui, le simple petit boulanger d'Anduze, n'est-ce pas ? Il lui parle d'égal à égal. Il signe colonel des enfants de l'Éternel, du camp des enfants de l'Éternel, n'est-ce pas ? Et il réclame dans cette lettre la liberté de conscience. Il déclare à peu près ceci : « Dieu a vu la conduite de nos pères. Il a répandu son esprit sur leurs enfants comme il l'avait promis par Joël. » Donc, ici, Cavalier et tous les prophètes qui sont avec lui ont conscience de vivre l'accomplissement de la prophétie de Joël « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». C'est à cette époque-là qu'apparaît pour la première fois le mot « camisard », On les appellera aussi les Barbés, hein, ou les Vaudois. Les Vaudois, à cause des Vaudois du Piémont, auxquels on les assimile, en fait, évidemment, il n'y a absolument aucune relation entre les Vaudois et les Camisards. Et c'est alors que la révolte va s'organiser entre août 1702 et janvier 1703 à peu près. La première partie de la révolte, celle que nous avons vue la dernière fois, n'était pas organisée. C'était une rébellion spontanée, désespérée. On ne s'attendait pas à vaincre. Tout ce que voulaient les révoltés, c'était mourir les armes à la main. C'était tout. Et puis soudain, contre toute attente, on a des succès. Et là, maintenant, on va changer d'objectif. Le but n'est pas de mourir les armes à la main, mais d'essayer véritablement de libérer les Cévennes et de retrouver la liberté de conscience. Le 24 décembre 1702, 660 soldats tentent d'interrompre un culte. Mal leur en prend. 100 d'entre eux vont rester sur le terrain contre 6 Camisards qui vont être tués. C'est un grand, grand succès des Camisards. Et c'est à la suite de cet exploit que Cavalier, qui est alors âgé de 21 ans, est nommé chef des insurgés à la tête de 230 hommes. C'est énorme, vous voyez. En plus, ces 230 hommes manquent d'armes, de munitions, et par conséquent, il faut s'en emparer. Alors Cavalier, qui n'est pas à court d'idées, loin s'en faut, n'est-ce pas, va tenter deux coups de main d'une rare audace. Il existe entre Uzès et Anduze un château fort en quelque sorte, qui était occupé par une garnison de dragons. Bien entendu, ce château était fort bien pourvu en armes, en munitions diverses. Et c'est alors que Cavalier va entreprendre un plan extrêmement osé. Il récupère pour lui et ses hommes des uniformes qui ont été pris sur des cadavres de soldats du roi tués, et avec des ordres de mission qu'il a trouvés dans la poche d'un des officiers, lui-même prend la tenue de l'officier plus des ordres de mission, et ils prennent 5 de leurs camarades, Camisards, qu'ils ligotent comme si c'était des prisonniers qu'ils venaient de capturer, et un beau soir, ils se présentent devant le château, disons voilà, nous venons de capturer 5 Camisards, nous demandons l'hospitalité pour la nuit avant de continuer notre chemin le lendemain. Ils sont en uniforme, ils ont des ordres de mission en bonne et due forme, les responsables du château n'ont aucune raison de se méfier. Alors, on les fait rentrer, on met les prisonniers dans les cachots, et puis le cavalier et ses hommes banquettent et festoient à la table des officiers du château. Ils ont, pendant la qu'on sent qu'on s'enivre, parce qu'ils font en sorte qu'on s'enivre un peu, n'est-ce pas, quelques soldats sortent discrètement et vont ouvrir la porte du château aux Camisards qui sont restés dehors et qui, par petites bandes, pénètrent à l'intérieur. Et soudain, au beau milieu du banquet, Cavalier tire son épée, transperce l'officier qui dirige la garnison et donne le signal de la révolte devant ces gens qui se demandent ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas. Et ils font sauter le château après avoir massacré la garnison et après s'être emparé, bien sûr, des armes. Alors, un coup d'une telle audace, évidemment, frappe les imaginations des Camisards d'abord, des protestants des Cévennes ensuite, et puis troisièmement, bien entendu, des troupes catholiques. L'affaire en arrive aux oreilles du roi, qui est outré, n'est-ce pas, et qui relève l'intendant Baville, qu'il considère comme un incapable, et à la place, il nomme le général de Montrevel, intendant général du Languedoc. Et pour faire bonne mesure, il l'envoie en Languedoc avec 10 000 hommes. 10 000 hommes contre 230 hommes, ou 260, vous voyez ce que c'est. Cavalier n'est pas impressionné, il va tenter un deuxième coup de main du même ordre. Cette fois-ci, il va viser plus haut encore, carrément une ville fortifiée. Même manœuvre, il se présente en uniforme de soldat du roi avec des ordres de mission, des prisonniers qu'il fait installer dans les prisons de la ville. Et puis, la nuit, quand tout dort, il fait ouvrir les portes par ses hommes. Et puis, il s'empare de la ville. Les habitants de la ville, terrorisés, se réfugient dans l'église. Et Cavalier, n'est-ce pas, pille les armes, mais il laissera la vie sauve à la population. Il n'y aura pas de massacre. La fin de l'année voit aussi la fin des activités des insurgés. Le mauvais temps arrive et par conséquent, ce qui va les intéresser davantage à la fin de l'année 1702, ce sont des activités spirituelles. Et des réunions vont s'organiser un peu partout au désert. Mais alors que ces activités spirituelles de l'hiver, ou de la fin de l'automne en tout cas, battent leur plein, soudain une prophétie est donnée qui donne l'ordre de se préparer à reprendre les armes d'une manière plus intense encore que par le passé. 700 volontaires répondent à cet appel, qui est une prophétie qui a encore une fois été donnée par Abraham Mazel, au cours d'un culte, n'est-ce pas? Et une nouvelle phase de la révolte va ainsi commencer. Roland, donc, est aussi nommé colonel des enfants de Dieu qui lutte pour la liberté de conscience, c'est son titre. Et les brûlements d'églises recommencent, notamment par la ville de Saint-Martin. Là, le curé, évidemment, est capturé, on s'apprête à lui faire un mauvais sort, quand soudain, Mazel a une révélation lui demandant de ne pas toucher un cheveu de ce curé. Pourquoi, demandent ses camarades, je ne sais pas, mais l'esprit a dit de l'épargner. Et c'est ainsi que ce curé sera épargné. Et ce n'est que plus tard que Mazel se rendra compte pourquoi l'Esprit-Saint lui avait demandé d'agir de la sorte. Car quand à son tour, Mazel sera fait prisonnier, il se retrouvera devant le curé de Saint-Martin qui demandera sa grâce en souvenir de la grâce qu'il a obtenue pour lui quand il s'est trouvé de l'autre côté de la barricade, si j'ose dire. Le 4 octobre, la petite troupe des 400 enfants de Dieu échappe de peu à une embuscade. Cette embuscade, elle n'est pas normale, elle n'est pas naturelle. Et au cours d'un culte suivant, le Saint-Esprit parle et dit « Il y a des traîtres parmi vous, des traîtres qui ont livré le camp des enfants de Dieu à ses ennemis. » Et le Seigneur désigne les traîtres. Celui qui prophétise va vers quelques-uns et les désigne. Et ces gens-là tombent à genoux, reconnaissent qu'effectivement ils ont trahi. On demande, on prie, qu'est-ce qu'il faut faire, et finalement c'est la guerre et on les met à mort. Hein, ils sont mis à mort. Et en même temps, le Saint-Esprit parle quant à la manière de dresser une embuscade contre poule. Mais là aussi, voyez-vous, c'est assez extraordinaire. Il y a eu des moments où, sans raison apparente, on n'écoutait pas le Saint-Esprit. Et les insurgés décident de placer l'embuscade à un autre endroit que celui que le Saint-Esprit leur avait dit, qui leur semblait stratégiquement beaucoup plus favorable. Eh bien, ils connaîtront la défaite. Connaîtront la défaite dans ce cas-là. 13 camisards seront tués, décapités, et leur tête portée en triomphe par les catholiques. C'est alors que Roland va intervenir. Roland, à cette époque-là, a 22 ans. Et il va intervenir dans une fameuse bataille qui sera la bataille qu'on appelle la bataille du Mar Rouge, où 60 camisards se heurtent à 700 dragons. Rendez compte, la disproportion des forces. Et là, un extraordinaire miracle intervient, comme le Seigneur l'avait annoncé par prophétie. Aucun des camisards n'est atteint par les armes. Les balles semblent arrêtées par une main miraculeuse, comme le Seigneur l'avait annoncé. Le Seigneur avait annoncé de ne pas avoir peur, qu'il allait arrêter chacune des balles, et il en est ainsi. Personne n'est atteint. Pas une égratignure, pas une blessure, mais l'ennemi s'enfuit honteusement par une véritable terreur de l'Éternel. Quelque chose, on n'a jamais su quoi, ils ont entendu quelque chose, vu quelque chose. En janvier 1703, Abraham Mazel reçoit une direction de Dieu assez curieuse. Cette direction lui enjoint de se retirer du champ de bataille, de ne plus participer au combat. Mais pendant que ses camarades combattent, d'être en train de prier. Mais en même temps, le Seigneur lui dit de se tenir prêt, parce qu'un temps viendra où il devra reprendre les armes. Les forces ennemies sont infiniment supérieures, 15 à 20 fois supérieures. Et pourtant, la victoire continue à sourire au camisard. Et en particulier, une grande victoire va être remportée contre le capitaine Poul, qui est un des principaux, un des officiers les plus redoutés, n'est-ce pas, des protestants des Cévennes, qui va être tué par un jeune garçon qui a lu l'histoire de David et de Goliath. Et puis qui décide, qui dit après tout, si David a fait ça contre Goliath, pourquoi moi je ne pourrais pas faire la même chose? Pourquoi le Seigneur ne pourrait pas être avec moi de la même manière? Et ce jeune garçon se cache dans un fourré et il attend que Poul passe à cheval. Il a une fronde, exactement comme David. Et quand Poul se présente, il lui décoche une pierre à la tête, exactement, et l'histoire de Goliath se reproduit. Poul tombe de cheval, assommé, terrassé, etc. Le jeune garçon surgit de son taillis, il tire l'épée de Poul, il lui coupe la tête. Exactement ce qui s'est passé avec Goliath. Et les troupes qui l'accompagnent se débandent, ce qui est extraordinaire devant ce jeune garçon. De voir leur capitaine ainsi décapité, ça les a impressionnés. Cavalier va organiser aussi non seulement la stratégie, mais la logistique. Et en particulier, il va créer dans la montagne tout un réseau de grottes qui vont être des entrepôts où vont être stockées des armes, des vivres, des munitions, des hôpitaux, n'est-ce pas, pour soigner les blessés, etc., etc. Pour fondre des balles, il y a des ateliers clandestins dans ces grottes, eh bien, on utilise essentiellement le plomb des vitraux et aussi la vaisselle d'étain. À cette époque-là, Cavalier se trouve à la tête d'une armée de 2000 hommes. Ça a considérablement grossi. D'où viennent les vêtements, etc., en général, les armes, tout ça, de ce qu'on a pris aux morts ennemis, et puis aussi, bien entendu, de l'argent qu'on a récupéré sur eux, qui leur permet aussi, évidemment, l'argent est le nerf de la guerre, comme disait Bismarck, et il en faut là aussi dans la guerre des Cévennes, on la récupère où on peut. En septembre de 1703, les forces de cavaliers atteignent 8000 hommes. Et grâce à ces forces qui sont plus considérables qu'elles ne l'ont jamais été, Cavalier va remporter deux victoires coup sur coup à Sérignac, puis à Nagues. Au cours de ces victoires, à la suite de ces victoires exactement, il fait fusiller 20 cadets qu'il a capturés en train de piller. Là, il ne fait pas de quartier. Montrevel est complètement débordé. Et il va tenter de faire ce que, évidemment, tout stratège digne de ce nom aurait fait, d'essayer de couper les moyens de communication des camisards. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Parce que les troupes de Montrevel ne connaissent pas la montagne, tandis que les forces de cavalier les connaissent comme leur poche. Malgré tout, Montrevel parvient à masser des troupes face à Cavalier au Vignan. Et là, eh bien, la fortune des armes, pour une fois, est favorable aux catholiques. Cavalier est défait. La porte est tuée par des forces qui sont supérieures. Puis, un des lieutenants de Montrevel, nommé Julien, tente une embuscade à Cavalier, mais cette fois-ci, Cavalier parvient à infliger à Julien une défaite. Même si, ce faisant, il continue à être poursuivi par Montrevel. C'est alors que Roland et Cavalier se rencontrent pour essayer d'élaborer une stratégie commune. Du côté catholique, on va aussi essayer de se réorganiser. Le 9 novembre, ont lieu les États généraux du Languedoc, présidés par l'évêque de Toulouse en personne, qui envoie une supplique au roi pour lui demander de lever des troupes sur place. Non plus des troupes venues d'ailleurs, mais des troupes sur place qui connaissent le pays. Ce qui est fait, hélas, n'est-ce pas ? La plupart de ceux qui sont ainsi enrôlés plus ou moins de force dans les troupes royales se débandent, désertent et rejoignent les enfants de Dieu, dont les troupes vont grossir considérablement. La terreur des camisards s'étend dans tout le Languedoc, et cette fois-ci, protégés par ce bouclier, eh bien, les protestants se sentent libres d'organiser des réunions. Les réunions se multiplient, n'est-ce pas, et le réveil par conséquent s'étend. Les troupes camisardes, encouragées par leur victoire, deviennent de plus en plus audacieuses, et c'est ainsi qu'au bois de Vagueres, elles remportent une grande victoire, après avoir dressé une embuscade aux troupes royales, qui leur vaut un gros butin. Le 23 décembre, pendant le culte de Noël, les catholiques lancent une attaque contre 60 camisards qui ont été trompés par un espion, trahis par un espion. Soudain, le Seigneur parle à Cavalier et lui annonce qu'il est trahi. Cavalier prie et demande, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Dieu lui dit, « Ne crains pas, tu auras la victoire. Dresse une contre-embuscade à ceux qui vont te dresser une embuscade, ce qui est fait. C'est une victoire totale des forces camisardes qui leur vaut aussi un important butin. Les troupes camisardes sont maintenant bien organisées. Leur commandant en chef n'est autre que Cavalier, dont on a su apprécier les compétences. Cavalier fait régner la loi du talon. Du talion. 40 églises sont brûlées ou pillées. 200 ou 300 sont abandonnées. 200 prêtres sont massacrés. Le 12 janvier, le marquis de Breuil, qui est un des lieutenants de Montrevel, attaque et ou lance une offensive contre les camisards. Ces derniers lui dressent une embuscade et monte à l'assaut au chant du psaume 68 que Dieu se montre seulement. À la suite de cette affaire, De Breuil est destitué et c'est Julien qui va le remplacer, qui est un apostat d'ailleurs, c'est un ancien protestant. Il va réussir à coincer Cavalier et lui infliger une lourde défaite au cours de laquelle 150 camisards seront tués. Julien fait affreusement torturer les prisonniers qui sont tombés entre ses mains avant de les exécuter pour les faire parler. Et il entreprend une politique de terre brûlée, détruisant, dévastant, brûlant, ravageant tous les villages et hameaux qui se trouvent dans les Cévennes. Et en même temps, des bandes catholiques se créent à l'image justement des bandes de camisards. Alors la guerre devient terrible, n'est-ce pas ? C'est le cycle infernal des représailles contre représailles, etc., etc. Après l'échec de Vagne, Cavalier reconstitue péniblement ses forces. Pour expliquer leur défaite au roi, les catholiques prétendent que les camisards sont aidés par l'étranger. Alors, on demande au roi des renforts. Et bientôt, Montrevel va être à la tête d'une armée de 20 000 hommes. 20 000 hommes contre 8 000 camisards au mieux. Élu et avec ses forces, le 6 mars, il inflige une lourde défaite à Roland, au cours de laquelle il tue entre 200 et 400 camisards. Je me suis exactement le chiffre. Mais pourtant, le 12 mars, les expéditions camisards, malgré la défaite, reprennent de plus belle. C'est un coup d'épée dans l'eau. Dans un premier temps, le roi décide d'écraser les forces camisardes avec les troupes qui se trouvent sur place. Et dès la fin de 1702, 32 compagnies de fusiliers et 4 dragons opèrent dans le Languedoc. Mais rien n'y fait. Et lorsque ces gens-là, qui sont pourtant des hommes de guerre aguerris, n'est-ce pas, entendent le chant des psaumes, eh bien, ils sont comme frappés de stupeur sur place et ils n'interviennent pas. Certains prophètes, comme Mazel, reçoivent de Dieu l'ordre de ne pas intervenir directement dans les combats. Certains désobéissent et les armes sont rayées dans leurs mains. Ils ne peuvent pas les utiliser. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on continue de brûler les châteaux en particulier, qui sont des bases de départ pour les ennemis. Il y aura des excès. Il ne faut évidemment pas présenter les camisards comme des saints, n'est-ce pas? Il y aura des excès, des massacres inutiles. Ah bon, la guerre est la guerre, bien sûr, il faut la guerre. Bon, qu'on exécute des traîtres, qu'on essaye, n'est-ce pas, de terroriser l'ennemi, bon, ça c'est normal. Mais il y aura parfois des excès, des massacres inutiles, surtout, n'est-ce pas, dans cette deuxième période, cette dernière période-là. Le 6 mars, les Camisards essuient une nouvelle défaite près de Pompignan. Et les prophètes expliquent qu'il y a eu trois choses qui sont intervenues. Premièrement, certains ont pris de l'interdit. Et l'histoire d'Acan se répète. L'interdit, c'est-à-dire le butin qu'il y avait lorsqu'on brûlait les églises, châteaux et choses semblables. Deuxièmement, il y a eu orgueil. Et troisièmement, il y a eu désobéissance. Alors, on se repent. Il y a une repentance générale. Et ce qui permet une victoire de Roland, qui va suivre quelques jours après. Les Camisards ont une très grande mobilité. Et c'est extrêmement difficile pour les forces royales de les traquer. Ils changent constamment de cache. Et qui plus est, ils jouissent de la complicité de la population qui les ravitaille. Ils sont un petit peu, si vous voulez, ce que disait Mao dans l'ABC de la guerre révolutionnaire, n'est-ce pas ? Il faut que le maquisard soit comme un poisson dans l'eau au milieu de la population. Et les camisards, qui sont des gens nourris, pétris de la Bible, peut-on dire, n'est-ce pas ? Considèrent que les châtaignes sont la manne de Dieu. C'est d'ailleurs l'essentiel de leur nourriture quand vient l'automne, n'est-ce pas ? Ils se nourrissent essentiellement de châtaignes. Et de la même manière que Dieu avait donné la manne dans le désert, il donne aux camisards les châtaignes. Quand ils pillent, ils ne le font que pour pourvoir à leurs besoins, quand il n'y a plus de châtaignes, justement. Et ils s'interdisent toute autre distraction. Ils ne touchent jamais aux idoles, jamais aux objets de superstition qui sont frappés pour eux par l'interdit. Bien entendu, il n'est pas question d'ébauche au milieu d'eux. Ça, c'est hors de question. En fait, ils vivent les poupées bibliques. Pour eux, ils revivent toutes ces choses-là. On a vu tout à l'heure David contre Goliath, la manne dans le désert. Enfin, ils revivent tout ça. Ce sont des hommes de foi que le Saint-Esprit guide en tout. Ils demandent la direction du Saint-Esprit pour les moindres choses. C'est le Saint-Esprit qui les a conduits, qui les accompagne même au supplice. En effet, à partir de cette époque-là, la répression devient féroce. Montrevel veut employer la faim pour dévaster les villages. Il massacre les moutons pour justement priver les habitants de leurs moyens de subsistance. Le 2 avril, les camisards vont immédiatement intervenir et les représailles vont être immédiates et brutales. Alors, Montrevel emploie une autre tactique, les déportations de population. Les camisards tentent de s'y opposer et le 12 avril, ils subissent une défaite. Cavalier se ressaisit, il attaque la garnison de Saint-Hippolyte-du-Fort et de Saint-Jean-du-Gard et Montrevel est impuissant pour protéger ces garnisons-là. En fin de compte, les camisards sont partout. C'est eux qui dictent leurs lois et Montrevel, malgré ses 20 000 hommes, est complètement dépassé. Ces hommes n'osent plus sortir de leur cantonnement, de leur casernement, un petit peu comme les Russes pendant la guerre d'Afghanistan. Et c'est à cette époque-là que Jean Bion, le prêtre de la Superbe, se convertit. Au moment où Julien, dépassé par les événements, eh bien, donne l'ordre de passer au fil de l'épée tous les enfants, un petit peu comme avait fait Pharaon. Et un autre de ses lieutenants propose de les noyer dans la mer, comme avait fait Pharaon également. Voyez-vous, l'histoire vraiment se répète. Baville avait déjà essayé de reconstituer une Saint-Barthélemy des maisons, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que 500 villages vont être rasés. Après avoir progressé dans la plaine, ils vont tenter de s'engager dans la montagne. Et là, ça va être autre chose. Il faut dire aussi que la noblesse protestante est contre les camisards. Ils veulent la paix, n'est-ce pas ? et il tente de réorganiser les Camisards, de désorganiser les Camisards. Donc les Camisards ont à lutter à la fois contre les catholiques, mais aussi contre les gentilshommes protestants. Sauf un, le baron François de Salgas, qui assiste à un prêche au cours duquel il est arrêté, et il est condamné aux galères perpétuelles dont il ne sortira qu'à l'âge de 70 ans. C'est un des plus anciens, un des plus vieux galériens protestants que l'on connaisse, des gentilshommes. En février 1703, Montrevel décide alors à ce moment-là une grande offensive. Il va faire tracer 100 km de route pour amener son artillerie dans la montagne. Il construit des forteresses, il anéantit des villages, 608 hameaux sont rasés, il fait murer 208 grottes qui servaient de cache et de réserve aux Camisards, et c'est alors que pour la première fois, les Anglais sont prêts à intervenir. Et ça, c'est le grand espoir des Camisards, n'est-ce pas, l'intervention des Anglais. On annonce qu'au large de Montpellier, d'Aigues-Mortes, etc., des voiles anglaises et hollandaises ont été aperçues, ce qui est vrai. En fin de compte, jamais ni les Anglais ni les Hollandais ne lèveront le petit doigt pour aider les Camisards. Les Camisards attendent la fin de la moisson pour reprendre leur raid de plus belle. C'est alors quelque chose absolument extraordinaire. Le roi lui-même demande que l'on entre en contact avec les Camisards pour connaître leur but de guerre. C'est-à-dire qu'il est prêt à traiter. Il est prêt à traiter avec ces gens-là. Avec ces manants, n'est-ce pas? Alors les Camisards répondent très simplement, les buts de guerre sont tout à fait simples. Liberté de culte. C'est tout. Tout ce qu'on demande. Le roi refuse. Et il demande que la répression soit encore beaucoup plus féroce. Et le projet de Montrevel est simple. Dépeupler et dévaster les Cévennes. Hélas pour lui, le 25 septembre, Cavalier et Roland unissent leurs forces et exterminent ensemble trois des meilleurs régiments du roi. Régiments de cavalerie, c'est incroyable. Alors, les forces royales sont complètement terrorisées et les déportations commencent. 1300 personnes, d'abord, sont déportées dans les provinces voisines. Le 11 septembre, à Marly, le roi signe une ordonnance qui ordonne la destruction des villages et des hameaux. C'est une démarche très malheureuse parce que ceux qui ont vu leurs maisons, etc., brûler, rejoignent bien entendu les Camisards. Les parents du cavalier sont de nouveau arrêtés. Cavalier se venge en ravageant la plaine le 20 septembre. Comment vivaient les Camisards? Quelle était leur vie quotidienne? Ils vivaient très simplement, bien sûr. Ils vivaient d'abord une vie spirituelle intense. Il est évident que pour pouvoir mener une telle épopée, il fallait une communion intense avec le Seigneur. Il y avait un culte tous les soirs. Des cultes qui groupaient jusqu'à 2000 assistants. Les Camisards affrontaient la mort avec sérénité. Et souvent dans ces cultes, Dieu avertissait ceux qui allaient mourir au combat. Et bon, bah, c'est comme ça. Ou d'ailleurs ceux qui allaient être exécutés. Le Seigneur annonçait, c'est pas, tu vas être exécuté, mais je serai avec toi. Des enfants de 12 ans combattaient. Des enfants de 12 ans exerçaient les dons spirituels. Et chaque enfant de Dieu était exhorté à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels qui l'accompagnaient. Souvent, les dons spirituels exhortaient à fuir le mal, à aimer le bien, à mépriser la vanité et la folie du monde. Dès que quelqu'un se mettait à prophétiser, tout le monde mettait le genou en terre. C'était une manière de recevoir avec respect la parole de Dieu, qu'on recevait alors comme la parole de Dieu. Lors de la bataille de Calvisson, le Saint-Esprit ordonnera à un certain nombre de femmes de participer au combat. Ce sera une des rares fois. Très souvent, dans les cultes, Dieu révèle où et comment il convient d'intercepter, par exemple, un courrier ennemi, pour connaître les intentions, les plans de l'ennemi. Une autre fois, le Saint-Esprit révèle qu'un traître a reçu une somme d'argent pour, dit-il, entre guillemets, empoisonner mon serviteur. Un Judas est ici. Et le traître est démasqué. Contrairement à ce qui s'était passé la fois précédente, on lui laisse la vie sur l'ordre de Dieu. Mais cet homme mourra à la suite d'une douloureuse maladie l'année suivante. C'est dans cette occasion-là que le grand prophète Clary va marcher dans le feu, n'est-ce pas ? Après que cet homme ait été donc ainsi libéré. La scène n'est donnée qu'à ce que désigne le Seigneur par son esprit. Et très souvent, Cavalier, quand il distribue la scène, quand il va donner le pain et le vin à quelqu'un, prophétise sur lui et il dévoile ses péchés. Le Seigneur dit, voilà, tu ne prendras la Sainte Cène que quand tu seras repenti de tel et tel péché. Et Cavalier lui dit, va là-bas, prie, et puis reviens quand tu auras réglé tes problèmes. Ça, c'est vraiment le réveil. Quoi. On est loin du réveil de Toronto, hein, ça c'est sûr. Dieu révèle à une certaine occasion aussi un autre traître qui se nommait Lassalle, qui s'était disposé à tuer Cavalier. Et là, cet homme sera décapité. Un déserteur catholique aussi est dénoncé comme traître, et il est aussi exécuté. Une autre fois, un homme nommé Serre est dévoilé comme ayant pris de l'interdit. Et le Seigneur annonce que pour ce péché-là, il sera tué au combat, ce qui sera. Les prophètes annoncent ce que sera l'avenir de l'Église, du monde, et même la Révolution française. La Révolution française a été annoncée par les prophètes sévenols à cette période-là, tout à fait au début du siècle. Le 21 octobre, le roi autorise le bombardement des Hautes-Cévennes et la dévastation des Cévennes commence. Mais les prophètes parlent et annoncent que dans 3 jours, Montrevel sera obligé de descendre plus vite qu'il n'est monté, car il va être rappelé. Et pour cette raison, le Saint-Esprit demande au chef Camisard de ne pas chercher à empêcher la dévastation des Cévennes. Tout ce que le demande le Saint-Esprit, c'est qu'il reste pendant 3 jours dans le jeûne et dans la prière. Cavalier, sur l'ordre du Saint-Esprit, tente une embuscade à Montrevel lui-même. Montrevel tombe dans cette embuscade. Il crie victoire. En fait, la victoire est du côté Camisard. Et Roland intervient aussi sur l'ordre du Saint-Esprit. Et devant cette défaite, Montrevel, comme l'avait annoncé la prophétie, 3 jours après, est obligé de redescendre. La prophétie s'est accomplie à la lettre. Mais un autre danger menace les Camisards, les bandes catholiques qui pillent, qui sont assoiffées de pillage, de jalousie contre les protestants, qui réussissent d'ailleurs beaucoup mieux que Montrevel. Et le 11 novembre, Cavalier, qui est en train de prêcher, reçoit une prophétie qui lui annonce que des bandes vont venir l'assaillir, mais qu'il va en échapper, ce qui est ainsi le cas. Devant l'échec sur toute la ligne qu'il vient d'essuyer, Montrevel envisage rien de moins qu'un génocide total de la population des Cévennes. Vous voyez, on en était déjà là. Il enlève une des prophétesses des Camisards, que l'on appelle la Blondine, n'est-ce pas ? Cavalier, en représailles, enlève la femme du consul et l'échange contre la Blondine. Par contre, une dame catholique favorable à la réforme, une dame noble, Madame de Marmont, va être assassinée par des Camisards. Cavalier va réagir extrêmement vigoureusement. Il fait fusiller ceux qui ont été les assassins de cette dame. En novembre, Julien continue à pratiquer la terre brûlée et il s'étonne de ce que les Camisards n'attaquent pas. Mais les Camisards ont reçu de Dieu l'ordre de rester tranquilles. Le 14 décembre, 31 villages sont brûlés, avec comme seul résultat de venir grossir les rangs des Camisards de tous ceux qui ont tout perdu. Et c'est précisément à cette date qu'Abraham Mazel reçoit de Dieu l'ordre de reprendre les armes. Il va être secondé dans sa tâche par un jeune homme qui se nomme Élie Marion, qui sera aussi un des grands chefs Camisards. Élie Marion a été traumatisé quand, à l'âge de 7 ans, il a dû assister à l'abjuration de ses parents. Et lorsque ses parents vont fréquenter clandestinement, bien entendu, les assemblées du désert, Élie Marion va les accompagner. Et lorsque soufflent les premiers feux du réveil, Marion va être un de ceux qui va être saisi par le Saint-Esprit. Et il déclara plus tard, notre pays fut comme enfanté à nouveau par le Saint-Esprit. Le réveil se manifeste par des repentances, des réconciliations, des réparations, des restitutions, surtout parmi la jeunesse. Et au cours d'une de ces assemblées du désert, le Saint-Esprit parle et dit « Dieu a choisi Élie dès le ventre de sa mère pour sa gloire, pour manifester sa gloire. » Le 1er janvier 1703, il est baptisé dans le Saint-Esprit, après avoir reçu une forte conviction de péché, qui sont d'ailleurs énoncées par une prophétie. Il avait résisté à la conviction de péché pendant 3 semaines. Et là, le Saint-Esprit l'envoie prêcher au désert avec les autres frères, avec ordre de distribuer la Sainte Cène. Et au cours d'un culte mémorable, par le Saint-Esprit, jeune baptisé dans le Saint-Esprit, il révèle les péchés de 70 participants à ce culte. C'est aussi dans ce culte que Cavalier, qui est présent, est sauvé par la prophétie d'une petite fille qui annonce l'arrivée des dragons. Avez-vous même les enfants prophétisés? Là, pendant ce temps, entre avril 1703 et mai 1704, la dévastation des Cévennes continue. Et on cite un cas particulièrement douloureux et tragique. Protestants qui sont capturés et qui sont condamnés à être précipités du haut du pont du Gard. Parmi eux, une jeune fille d'une grande beauté, dont un soldat tombe amoureux, n'est-ce pas, et il demande que, elle a 18 ans, n'est-ce pas, il demande qu'elle soit épargnée et il veut l'épouser. Et l'officier qui commande l'exécution le lui accorde, lui dit bon, ben d'accord, à une condition, bien sûr, c'est qu'elle se convertisse au catholicisme. Or, cette jeune fille est une prophétesse. Elle refuse. Elle refuse, elle dit que Jésus est son époux et qu'elle est bien contente d'aller le rejoindre et que elle ne trahira pas sa foi pour avoir la vie sauve. Mais avant de mourir, n'est-ce pas, pour témoigner sa reconnaissance à ce soldat qui a eu pitié d'elle, n'est-ce pas, elle lui fait cadeau d'un écu et de 2 bagues qu'elle portait avec elle, n'est-ce pas. Et elle est précipitée avec ses 28 compagnons du haut du pont du Gard. Bon, la logistique et le ravitaillement des troupes camisardes sont aussi organisés par le Saint-Esprit. Élie Marion dira « Nous formions une seule et même famille ». C'est alors que Roland reçoit une prophétie disant que l'aventure camisarde se terminera par la défaite. Le Seigneur annonce cela. Mais Dieu enverra un petit nombre de ses serviteurs bien choisis qui viendront d'un pays éloigné, et avec eux, il fera des choses grandes et merveilleuses. C'est-à-dire que le Seigneur annonce la survie du protestantisme, en quelque sorte. C'est-à-dire tout ce que sera l'œuvre d'Antoine Court et tous ceux qui seront autour de lui. Marion annonce que lui-même ne verra pas la délivrance, ainsi que la plupart de ceux qui assistent à ce culte, mais que cette délivrance aura lieu. Effectivement, un mois après, Roland défait un régiment entier de cavalerie, le long du Gardon, n'est-ce pas ? C'en est trop pour le roi, qui révoque Montrevel et envoie un nouvel officier extrêmement prestigieux, le marquis de Villars, qui arrive en Languedoc le 21 avril. Bon, quand il arrive en Cévennes, Villars se rend compte que l'échec catholique est évident. Surtout qu'entre le 17 et le 20 décembre, profitant du flottement entre le départ de Montrevel et l'arrivée de Villars, Cavalier remporte encore une nouvelle série de victoires retentissantes. Des femmes qui sont chargées de ravitailler les camisards sont arrêtées. Couderc les délivre et inflige aux troupes royales une nouvelle défaite totale. Alors, le roi donne à Villars l'ordre de mettre de l'ordre, justement. Les curés des paroisses dressent une liste des suspects qui sont systématiquement massacrés. Hélas, en janvier 1704, 2 régiments royaux sont décimés complètement. Non seulement ça, mais des catholiques se convertissent. On note à cette époque 1200 nouveaux convertis. qui vont rejoindre évidemment la grande troupe des Camisards. Ils prennent les armes, la plupart d'entre eux aussi, n'est-ce pas ? Et ces conversions vont avoir lieu entre le 1er janvier et le 15 août 1704. C'est alors qu'un autre drame intervient, une autre prophétesse qu'on appelle la Grande Marie est arrêtée, condamnée à mort. Cavalier va tenter de la délivrer, hélas, ce sera l'échec, et la Grande Marie sera pendue. Les nouveaux convertis sont aussi un apport très important pour les forces camisardes, parce qu'ils connaissent bien le parti adverse. Et très vite, les forces royales ne sont plus du tout contrôlées. Cavalier s'en prend donc aux bandes catholiques qu'il va essayer de mettre à la raison, alors que les Villars regroupent ses forces pour tenter d'intervenir à la fin de l'hiver. Le 12 mars, l'esprit annonce à Cavalier qu'il doit tendre une embuscade à ses forces coalisées et qu'il aura la victoire, ce qui est. Ils vont au combat en chantant le psaume 51 et, dit Cavalier dans ses mémoires, l'ennemi s'est mis à tomber comme des mouches. 350 soldats du roi sont massacrés et les forces camisards remportent un butin extrêmement important. Cette défaite, qui a lieu au bois de la Jonquière, épouvante Versailles, mais fait grand bruit à l'étranger. On commence à prendre les camisards au sérieux. Les forces royales font détruire les murets qui sont le long des chemins pour que les rebelles ne puissent pas s'y embusquer. Et les camisards ne sont pas incommodés pour autant par cette destruction des murets et ils parviennent à rompre tous les encerclements auxquels ils sont soumis, même si parfois ils ont des pertes qui peuvent parfois être extrêmement importantes. Montrevel quitte donc le Languedoc, laisse la place à Villars, qui va entreprendre une nouvelle politique. Villars se rend compte que ses forces manquent d'un élément absolument vital, le renseignement. Ils sont tout à fait dans le bleu total en ce qui concerne les mouvements des forces camisardes. Et Villars va se rendre compte que poursuivre la politique de Montrevel ne mène à rien. Alors, il va tenter une manœuvre beaucoup plus subtile. Il commence par inviter les rebelles à déposer les armes en échange d'une amnistie et une certaine liberté, en ce sens que les Huguenots auront le droit de prier chez eux à la maison, ce qui était interdit auparavant. Donc il y a déjà le roi, si on peut se dire, l'âge du lest. Nombreux sont ceux parmi les protestants qui n'en demanderaient pas plus. Et 35 camisards acceptent l'amnistie proposée par Villars. Mais Cavalier, sur l'ordre de Dieu, déclare qu'il n'est pas prêt à déposer les armes aussi longtemps que la liberté ne sera pas rétablie totalement, et en particulier qu'on le laisse sortir du royaume, lui et ses hommes. Cavalier se rend compte aussi que des points ont été marqués, et que là, actuellement, continuer aussi, s'obstiner, serait peut-être manquer de sagesse. Et que là, maintenant, puisque les troupes royales sont disposées à composer, eh bien, composons. Effectivement, on n'obtiendra pas, bien entendu, la liberté totale, mais si on peut obtenir la liberté de culte chez soi, la liberté des assemblées du désert, ben, ce sera déjà ça. Ce sera déjà ça. Le 5 mai, Villars tente une battue devant le refus de Cavalier, en vain. Et c'est l'époque où les enfants de Dieu reprennent leurs activités. Et c'est alors que Dieu leur dit de mettre bas les armes, que maintenant les choses sont arrivées à un stade où le moment est venu de traiter. Et chose étonnante, les prophéties vont cesser à partir de ce moment-là, où les autres prophéties qui vont avoir lieu à partir de cette époque-là seront des fausses prophéties. Là, il y a un tournant. Et c'est pourquoi Cavalier accepte de discuter. Le 19 avril, Villars, après avoir longuement hésité, promet à Cavalier la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il propose aux camisards ce qui était leur but de guerre. C'est-à-dire que les camisards ont remporté la victoire. Dieu parle à Cavalier et lui demande de traiter avec le roi. D'aller, il lui annonce qu'il ira dans le palais du roi pour délivrer son peuple par des moyens inconnus de la prudence humaine. Mais le conseil des prophètes, qui est dirigé par Abraham Mazel, déclare que cette prophétie est une fausse prophétie. Et l'avenir montrera effectivement qu'il en était bien ainsi. Cavalier s'est trompé quant à son inspiration. Néanmoins, il se rend à Calvisson, où il rencontre Villard, mais Mazel ne s'y rend pas. Alors voyez-vous, c'est un coup dur parce qu'il y a une espèce de division au sein du mouvement Camisard. D'un côté, Cavalier, qui est prêt à traiter, et d'un côté, Mazel et les autres, qui sont prêts à une résistance absolue. Cavalier discute avec Villard, qui entend son plan. Il veut un sauf-conduit pour aller parler au roi. Villard le dissuade d'aller voir le roi, mais lui propose d'envoyer une lettre qui, en fait, lui est dictée, parce que quand même, ce n'est qu'un simple garçon boulanger, il est manœuvré par Villard, n'est-ce pas ? Et on lui fait signer, en fin de compte, une capitulation sans condition. Alors évidemment, quand ça s'est appris dans le camp des enfants de Dieu, c'est la consternation et la colère. On considère que Cavalier s'est fait jouer berné, et Roland en particulier s'oppose fermement à cette capitulation et décide de continuer la lutte. Le 16 mai, Cavalier a une nouvelle entrevue avec Villard à Nîmes, dans le jardin des Récollets, du couvent des Récollets. Assiste à cette entrevue également Baville et Lalande. Et Cavalier n'ose même plus revendiquer la liberté religieuse, bien que devant ses compagnons, il affirmera qu'il a défendu ce point de vue. Donc il y a un double langage de Cavalier. Et Cavalier, là, va entrer dans une voie extrêmement dangereuse qui va saper justement le mouvement Camisard, en sorte qu'on peut parler d'une véritable déchirure qui va avoir lieu à cause justement de l'attitude de Cavalier. Ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions maintenant là-dessus, rapidement ?